Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, Frédéric. Je vous propose la deuxième partie du reportage sur le spectacle La robe de mariée, proposé par l'Atelier des Arts. Cela se passe à la Grange à Trumilly. Nous allons écouter l'interprète Marie-Catherine Conti, la personne qui s'occupe de la mise en scène, Chris Bernat, la collaboration artistique avec Daniel Salnave de l'Académie française et Lucie Lacour.
Je veux rester seule. J'ai affaire. Il ne faut pas qu'il arrive quelque chose qui m'empêche de finir ma robe et d'aller vers mon futur. Que mes deux yeux deviennent aveugles. Mes doigts gourds, tremblants, battant la mesure sans raison, que mes os s'effondrent sur eux-mêmes, ou quelque chose d'autre de terrible. J'ai déjà eu les os brisés, j'ai été très bien réparée, mais il y a peut-être encore des morceaux perdus, alors que je pourrais être dans ma robe toute entière, à offrir à l'amour.
En tout cas, sur le texte, moi j'ai connu le texte quand Chris m'a proposé une collaboration. Je l'ai lu, je sais pas, beaucoup moins que toi, mais je l'ai quand même beaucoup lu. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que la première fois que j'ai vu Marie-Catherine l'interpréter, je me suis dit waouh, mais je le pensais pas du tout comme ça. Elle arrive à sortir le nectar du texte. Texte qui n'a strictement aucune ponctuation.
Oui, oui, c'est important.
Il faut le signifier parce que du coup, quand on lit, on dit mais je comprends rien, il n'y a pas de ponctuation. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant stylistiquement de ce texte de Catherine que j'ai rencontré par ailleurs. Et elle l'a interprété d'une autre façon qui n'est pas la tienne. Et du coup, moi j'ai mon éclairage, l'éclairage de l'écrivaine et puis ton éclairage à toi, à vous. J'ai envie de dire. Et c'est chouette, c'est un texte qui est à chaque écoute, parce que moi je l'écoute, je suis spectatrice quand je joue pas, je suis quand même bien spectatrice, je découvre d'autres choses.
Et je dois rendre hommage à Marie-Catherine, parce que mémoriser ce texte, c'est complètement dingue.
C'est dingue, ça.
Oui, franchement, c'est dingue. Moi j'avais une trouille pas possible, elle aussi sûrement, mais bon sang! Elle a fait un travail de, ne serait-ce que de mémorisation sur une heure de texte. C'est impressionnant.
Ouais, c'est une heure de
chapeau.
C'est une heure de texte qui est en rupture, qui passe du coq à l'âne, qui n'est pas apparemment logique, il y en a une, mais c'est quelqu'un qui a une pensée qui est tout le temps en action, avec effectivement des peurs, des fantasmes, et puis elle se raccroche à cette robe dont on n'a pas parlé. Il y a quand même une robe qui se trouve être à la collection du
d'Arbre. Attention, non, à la collection de l'Arbre.
De l'Arbre, à Lausanne.
On va parler de musée.
Où il y a effectivement, et du Buffet, le peintre du Buffet, à qui cette robe est là offerte à cette collection à Lausanne. Donc l'affiche, c'est la robe qu'elle a faite. Oui. Parce qu'il faut savoir que cette femme n'a pas existé, qu'elle n'a rien écrit, mais elle a laissé cette œuvre majeure. Et Catherine, l'auteur, a
Bataki
a donné la voix en écrivant de cette femme obscure, oubliée, etc.
Qui était internée pendant,
l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 57 ans.
Non, 67.
67.
Peu importe,
Et elle est morte deux ans avant d'avoir terminé. Elle est morte deux ans après avoir terminé sa
robe. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'elle est internée à Saint-Alban-sur-Limagnole. Et Saint-Alban-sur-Limagnole, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été un hôpital psychiatrique emblématique. Et c'est là où est née la thérapie. Les thérapies d'Arbre-Hutter, qu'on considérait que le fait de pouvoir travailler artistiquement, que ce soit sculpture, peinture, etc., ou couture, pouvait aider les malades. Ouais. Et c'est dans cet endroit où se sont réfugiés des gens comme Éluard et sa femme,
oui,
des gens comme du Buffet, des résistants.
Denise Glaser.
Oui, c'est un endroit très très étonnant, qui est très peu connu.
Et donc, Marie-Catherine, il faut combien de temps pour faire ce spectacle de préparation? Ça vous demande combien de temps?
Oh, ben pour le texte, je m'y suis mise en mai, tous les jours. Mai, juin, juillet, août.
Ah oui, tous les jours?
Tous les jours. Parce qu'il faut déjà le défricher. C'est là où on a travaillé. Parce qu'avec Christine, on a travaillé d'abord sur l'ensemble du parcours, le décor, parce qu'elle est aussi scénographe. Et après, avec Daniel, on a travaillé sur le texte, à le défricher, à savoir où recomposer, parce qu'il n'y a pas de ponctuation, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi des moments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, enfin qui n'ont rien à voir, c'est sa vie. Mais par exemple, à un moment, elle parle des soldats, et elle évoque en fait la guerre,
la Deuxième Guerre.
Mmh. Et quand elle dit qu'elle est vie à sa manière, mais qu'elle avait faim, ils étaient morts de faim, il y a quand même 40 000... personnes dans les établissements psychiatriques pendant la guerre qui sont mortes, 40 000.
L'un des pires étant celui de Clermont-de-l'Oise.
Voilà.
Oui, absolument. Là, c'est à Clermont-de-l'Oise qu'il y a eu un très grand nombre de morts, où Séraphine de Senlis est morte, de faim.
De faim.
Là, à Saint-Alban, elles ne sont pas mortes de faim.
Non, parce que justement, c'était un hôpital psychiatrique qui était tellement en avance. Par exemple, il y avait non seulement le journal, les personnes écrivaient ce qu'il allait pas, ce qui allait, etc. Donc s'exprimaient.
Et il y avait un maire et des médecins qui étaient fantastiques,
oui,
qui étaient complètement. Les Allemands ne sont pas rentrés dans cet hôpital, alors qu'ils sont rentrés dans plein d'autres hôpitaux psychiatriques et autres.
Un seul en scène, mais c'est un travail d'équipe, quoi. Vous n'êtes pas seul.
Ah, ben toujours. On ne peut pas être seul. D'abord, on a besoin d'un regard. Ou deux regards ou plusieurs.
Oui.
Enfin, il faut qu'il y ait le boomerang, il faut qu'il y ait le renvoi de ce qu'on propose. J'ai fait plusieurs seules en scène, dont quand même qu'a écrit Daniel. J'en ai fait plusieurs, mais j'ai toujours eu une assistante ou un assistant, quelqu'un qui me renvoyait, avec qui je pouvais parler. Parce que même si on propose en tant qu'acteur, on se regarde, il faut quand même le tester avec quelqu'un de confiance qui va vous pousser à aller plus loin, ou au contraire le qui pense que ce n'est pas une bonne voie, réfléchir. Donc c'est vraiment un travail de couture, comme disait Lucie. Vraiment, on brode. Mmh. Donc c'est un travail d'équipe, toujours le théâtre. C'est pour ça qu'il est hétérogène. Il fait appel à plein de talents différents, que ce soit quelqu'un qui fait les lumières, les costumes, le son, la scénographie, les acteurs, le metteur en scène, le dramaturge. Tout ça, ce sont des gens qui convergent vers le même projet à partir d'un texte. Moi, c'est à partir du texte. Et donc, ce qu'on appelle le travail à la table, c'est un texte aussi, ben, c'est ce qu'on a fait. On peut travailler pendant plusieurs semaines sur le texte sans bouger. Parce que les mouvements vont venir après de la compréhension subjective, hein, parce qu'on ne détient aucune vérité. Mais là, je crois qu'on a fait un travail qui, normalement, on n'est pas dans le contresens. On n'a rien plaqué. Parce qu'il y a des metteurs en scène qui prennent des choses, des textes, et qui plaquent des idées toutes faites. Ce qu'on a, nous, évité de faire. Mais c'est un travail d'équipe, bien sûr.
Et donc, on suit donc, sur le... Il y a un site, l'Atelier des Arts, il y a quelque chose, il y a un Facebook.
Alors, voilà,
on peut suivre ce que vous proposez.
Voilà, tous les spectacles qu'on a fait, ceux qu'on va faire. Là, maintenant, il n'en reste plus qu'un, parce que la grange, on ne peut pas la chauffer.
Oui, il y en a quand même pas mal d'affiches, là, autour de nous.
Voilà,
hein,
oui,
donc,
il y en a beaucoup. Hein.
On précise qu'on est dans une cuisine à côté de la grange, et puis c'est votre refuge un petit peu, c'est ça?
Oui, c'est puis c'est les toilettes pour le public.
Alors,
il y a
en plus,
les
donc,
gens, il y a une loge pour les artistes, et puis une salle de bain pour se préparer. Donc on a aménagé, parce que ça nous a été prêté par un propriétaire de la grange et de cette maison. Donc on a réhabilité avec justement des bénévoles du village, à qui j'ai offert un cabaret. Et donc, ils viennent volontiers parce qu'ils ont participé à la réhabilitation du lieu. Donc, ils sont chez eux. Ça, c'est très, très important. Et ils écoutent du Pergolèse, du Sarraud, du Duras. Enfin, on les sort d'une zone de confort.
On
je l'avais dit déjà, on joue
Alors, il faut faire attention, il ne faut pas non plus faire des choses hermétiques ou trop, qui seraient vraiment que pour des gens très, très savants en théâtre. Il faut que les gens soient heureux ou réfléchissent, les deux d'ailleurs. C'est le but.
Je reviens juste sur la robe de mariée. C'est un spectacle que vous aimeriez jouer autre part qu'à la Grange ?
Ah oui, bien sûr.
Oui.
On espère.
Oui. Que ce travail soit récompensé.
Le texte le mérite vraiment. Il faut. Et je pense que c'est un texte qui est rare. Donc on devrait. Mais bon, après, c'est un autre problème. Il faudrait que les gens qui ont des théâtres soient plus curieux et plus généreux pour inviter des spectacles qui ne sont pas que les leurs. Ça, c'est un autre problème. Le renvoi d'ascenseur, c'est tout ce qui est. Donc, plus que jamais. Mais bon, j'espère quand même, on a quelques contacts. Enfin, moi, je vais contacter des gens que je connais, avec qui j'ai joué. À Compiègne, par exemple, j'aimerais beaucoup. Il y a une petite salle qui nous conviendrait très, très bien. Voilà, il faut que le directeur nous reçoive et qu'on lui en parle. C'est pour 2023 ou plus tôt. Hein. 2022, c'est fichu, là. Il faut faire un dossier, il faut le budgéter, il faut... Voilà, c'est...
Puis on a encore cette crise sanitaire qui n'est pas finie. Hein,
il
faut vivre avec... s'adapter un petit peu aux conditions qu'on nous impose.
Et puis, par rapport à ça, il y a un fait qui est établi, c'est-à-dire que depuis un an et demi, nous, intermittents du spectacle, on ne travaille pas correctement, mais on a monté beaucoup de choses et il y a un vrai entonnoir qui se crée. Ouais. C'est-à-dire qu'entre les spectacles qui auraient dû se faire, qui ne se sont pas faits, spectacles et concerts, les salles qui ont fermé, les intermittents qui ont changé de boulot parce qu'il fallait quand même payer le loyer, la nourriture avec les enfants. En fait, il y a un vrai goulet d'étranglement là sur la programmation du spectacle vivant, mais pas que. Ce qui fait que sur toutes les nouvelles productions qui ont vu le jour pendant les différents confinements, enfin, pendant l'année et demie qu'on vient de passer, il va falloir un peu de temps pour que tout ça se régularise.
Oui. Donc l'entonnoir est encore présent pour un petit moment.
On a encore un an, voire deux.
Alors, puis en même temps, il y a des... très probablement aussi des problèmes financiers.
Bien sûr, ça va être aussi.
Mais alors c'est drôle parce qu'il y a des structures très de théâtre public qui sont financées et qui ont été bénéficiaires pendant la Covid et qui là, alors je connais un directeur qui a eu l'intelligence et la bonté de, avec le surplus de ce qu'il a gagné, de faire un appel d'offres à des jeunes compagnies, c'est à Lille, il s'appelle Bobet, il faut le dire, et donc j'ai une amie qui a remporté cet appel d'offres et qui va pouvoir être en résidence, payée, et créer son spectacle.
Appel à projet.
D'accord. En tout cas, merci de votre accueil.
Merci.
Juste après la générale, donc j'ai eu l'opportunité de vous rencontrer. Oui. Je remercie Alain Bron, puisque Alain est proche de notre radio. Proche de vous aussi. Hein. On ne va pas tout dévoiler, mais voilà.
Non, mais l'arrangement et l'atelier des arts, ça
fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on tient à préciser quand même que le spectacle sera passé quand le reportage sera diffusé. Je tiens à bien le dire. Mais il faut quand même suivre un peu ce qui se passe sur votre site. Oui. Donc, parce que la robe de mariée pourra peut-être être jouée autre part.
Voilà.
Donc, vous l'annonceriez.
On l'annoncera. Et puis, le 19 septembre, le dernier spectacle.
Voilà. Et donc, après, à suivre, on verra en fonction de...
Tout à fait. Il est curieux polyglotte aussi, le site.
Oui, et bien allez-y, dites-le.
Non, j'ai dit déjà tout à l'heure, puisqu'on on est en partenariat. On a
vous avez un Facebook
aussi
vous avez...
sur Facebook et
d'accord.
sur LinkedIn.
Voilà. On peut faire ça.
Donc, ateliersdesarts.weebly.com.
Merci mesdames.
Merci.
Voilà, c'était Frédéric qui était aujourd'hui à Trumilly, ou même ce soir parce qu'il est tard, et je suis arrivé après la générale de la robe de mariée qui était jouée par Marie-Catherine Ponty, et donc qui était accompagnée d'une violoncelle, Lucie Lacour, c'est ça, de mise en scène Chris Bernard, voilà. On va préciser que pour la musique, il y a aussi Jean-Christophe Rosa, et une collaboration artistique Daniel Safna de l'Académie française. Mais je l'ai bien dit, mise en scène, bien précisé.
Je précise
la mise en scène de Chris Bernard avec Tristan Bruemer. Donc c'est l'assistant, c'est ça. Merci à vous, mesdames.
Merci, monsieur.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.